non spéculatif. Bouquet, coopératif, je ne sais pas, trois petits points. On va peut-être faire un petit tour de table pour se présenter. Moi j'ai un impératif, j'ai un train à 17h04. J'aimerais qu'on finisse à 16h30, si on peut. On est moins nombreux que toi, donc c'est facile, parce que le moins de 30, on était une trentaine. La réalité de tout le monde, hein. Ceux qui ont envie de participer à des réunions d'information et de discussion, c'est un moyen de se confronter à la fois à des réseaux et à des groupes projets. Donc pour nous, c'est important. Et puis, d'avancer de manière concrète sur un outil comme ça qui répond vraiment à des besoins. Et donc, je pense par la gauche, comme ça chacun se présente, on prend une minute à deux minutes chacun pour se présenter.
Christian Wedler, consultant, je vais me traiter, référent Habitat du programme Habitat à la Fondation de France, délégation régionale du Pas-de-Calais du quartier, membre du comité Habitat, membre du comité de pilotage de l'expérimentation Eco-Habitat, travaillant sur ou accompagnant plusieurs projets d'habitat coupé qui se dessinent sur la métropole lilloise actuellement.
Donc, Emmanuel Vivien, je suis le coordinateur de Habicop. Et Habicop, on travaille plus sur l'accompagnement de groupe. On a monté un projet d'habitat coopératif. Et sur le plaidoyer par rapport à un format juridique dédié à ce type d'habitat.
Jean-Philippe Bonac, donc je travaille à NEF-Gestion, qui est une filiale récemment créée par la Société Financière de la NEF, créée en début d'année. Parce que la société financière étant obligée de rester sur son activité financière, elle n'est pas à crédit, elle a, on va dire, externalisé, c'est un gros mot, mais externalisé son activité de suivi projet et d'ingénierie financière. Donc on accompagne certains projets, notamment sur les OPTF pour l'appel public à l'investissement. On a fait sur les énergies renouvelables et on a un peu touché l'habitat avec, avec Ingecop.
Je sais pas le ton nom, en fait.
Jean-Philippe Bonac, G-O-N-E-N-C.
Bernard Riva, je suis directeur associé d'Engecop, qui est une coopérative qui intervient dans l'habitat social participatif avec une seconde entrée. On est en train de créer un fonds dédié à l'habitat participatif, un fonds financier dédié à l'habitat participatif pour. Pour orienter les circuits financiers qui soient un peu plus adaptés à vos projets. Donc, ce fonds, on est en train de créer par rapport à la comité de pilotage, qui a été par Olivier. Pour certains, ça va se présenter. On verra plus les détails.
Moi, c'est Camilo Marti de Coopération. Donc, on est une jeune société qui se monte sur Lyon dans l'accompagnement de projets participatifs, notamment dans l'habitat. Donc, on fait partie de la SCOP Bruxelles, qui est une coopérative d'activité sur Lyon. Et voilà, on suit de près un peu ce qui se fait dans le secteur. Donc,
C'est ça,
il
est un peu Jean-Philippe.
Pardon, Camilo Marti.
Et c'est quoi pour son site?
C'est Coopération.
On s'est déjà vu, mais j'ai pas
entendu. On s'est croisé au réseau de Tagoumé.
Ouais. Pierre Lard, donc, réseau Habitat Coupé, Sud-Est. Association Sommeil d'Arbre Vert, projet d'habitat coupé sur le nord de l'Isère, pas loin de Lyon, et accompagné de ces deux projets avec l'espoir de bosser dans le Limousin pour l'arbre. Ah,
avec la SIC.
Oui. Voilà.
Et les recrues.
Ah, c'est bien. Christophe Rubin, je suis aux travaux de loin grâce à mes amis d'Habitat solidaire qui me refusent discrètement à comprendre, Charles et Dagonet.
Donc, si je les ai vus, je dis au bon.
Voilà. Donc je dirige une SIC qui s'appelle Urban Coop, qui est plutôt basée dans le sud, même si on commence à venir travailler en Rhône-Alpes. Et on est une équipe de coopératives, mais qui est partie à l'envers d'à peu près les gens que j'entends. On ne part pas des groupes de gens, on part des besoins gérés avec les communes. Et on cherche les groupes de gens après. Donc notre histoire s'est bâtie dans ce sens-là.
Une précision, les COP a le même fonctionnement. Ouais. On travaille avec les collectivités et on intègre les groupes d'habitants créés ou à créer après.
Voilà, bon, voilà. C'est ça notre histoire.
Et donc on est intéressé donc, sur les problèmes de financement, donc on a des problèmes financiers nous-mêmes, mais il y a deux types de sujets qui nous intéressent. Un qu'on essaie de bâtir, et on en discute avec l'équipe d'habitat solidaire, puisque sur des territoires, on nous demande souvent de mixer dans nos programmes et nos projets d'habitat social à des endroits, surtout en territoire rural, où les bailleurs sociaux ne veulent pas aller. Donc on a un problème de portage. Deuxième chose, on travaille depuis des années avec la CODA de Genève sur une réflexion sur le portage financier, sur le portage financier en particulier des fonciers, mais d'une manière durable, pour se rapprocher un peu de l'esprit de la loi sur les coopératives qui avait été abrogée par Charles dans les années 63. Quelle habitude essaye de faire remonter la pente, mais enfin, voilà. Mais aujourd'hui, en termes de loi, on n'a pas. Il y a un blocage au niveau des outils. Donc, on essaie de contourner ce blocage législatif, même si on croit des lois pour qu'habitude pareil à enfoncer le trou. Et avec des grands banquiers, on essaie de faire avancer le système peu ou que à Genève. Développe sur des investissements longs, c'est-à-dire que Rousseau à Genève, il a des prêts sur 60, 70, 80 ans sur le foncier, il connaît les deux élus. Donc on est assez passionné aussi par cet aspect d'ingénierie financière qui est, à l'heure actuelle, le nerf de la guerre pour faire sortir des populations modestes qui veulent accéder à la propriété.
Alors, Anne-Françoise Gaël, donc réseau Habitat Groupé Sud-Est, et puis donc à Lyon, depuis environ 7-8 mois, je suis à nouveau dans un groupe projet, donc le projet Les Choulans, voilà, dans le 5e.
Sarah Feuillas, je suis chargée de mission Habitat Logement pour la région Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes qui suit de plus en plus l'habitat coopératif participatif par le soutien aux réseaux, aux différents réseaux associatifs de la région, par un travail spécifique avec le Grand Lyon sur une fêtière d'habitat coopératif, et puis la mise en lien entre les collectivités territoriales au niveau national pour faire travailler à l'énergie d'habitat coopératif et participatif.
Et j'ai une question, est-ce que la région Rhône-Alpes a connaissance justement du club des élus qui veulent faire avancer l'habitat participatif?
Si je propose qu'on finisse le tour de
table,
je propose qu'on finisse le tour de table, puis après.
Okay.
Voilà.
Non, c'est d'ailleurs, je vous ai pas dit le truc, alors.
Mais oui, non.
Olivier Signoret de l'association Habité Autonome de Besançon, donc association de promotion d'habitabilité en coopérative en Franche-Comté, et aussi on prépare le premier groupe projet sur les enseignements.
Donc, Cécile Gallon, la secrétaire de l'Éco Habitat Groupé.
Et Vincent Jeannot, coordinateur de l'association Relier, et chargé de deux missions à Relier, précisément une d'analyse groupe de travail, et puis deux, travaillent sur une expérimentation avec la Fondation de France. Dans les 3 ans à venir sur éco-réhabilitation à dimension sociale participative. Ouais. J'avais envie de poser une question à Anne-Françoise et Claire. Tout le monde connaît le réseau de l'habitat groupé, parce que éco-habitat groupé, ça va. L'habitat groupé, ouais, tout le monde, c'est bon pour tout le monde. Et je vais faire un tout petit point où on est relié aujourd'hui hein, par rapport à l'ordre du jour. Je fais tourner une feuille de présence qui est en train de tourner. Ouais, donc mettez votre adresse si vous voulez recevoir le portrait de Dieu et la lettre d'info si jamais. Et vous pouvez arriver à relier si vous voulez. Relier pour ceux qui n'étaient pas là aux dernières réunions rapidement, c'est une association qui a 20, 25, 30 ans, qui a été à l'initiative de Terre de Liens. Et qui travaille sur l'installation de personnes qui ont des projets ou qui portent des projets sympathiques, on va dire écologiquement responsables ou socialement solidaires en milieu rural. Donc on a travaillé sur l'accès aux fonciers de 95 à 96 jusqu'en 2006 en fait, jusqu'à la sortie réelle de Terre de Liens et jusqu'à même la création de la foncière en décembre 2006. Et puis, suite au travail sur le foncier, on a commencé à travailler sur l'habitat en début d'année 2006, avec la même méthode que d'habitude, c'est-à-dire mettre autour de la table des personnes concernées, des chercheurs et des collectivités, ainsi que des animateurs ou développeurs associés. Et ça a donné un programme de travail qui, aujourd'hui, nous amène à travailler sur quatre thématiques, en fait, sur la question de l'habitat. L'accès à l'habitat, il y a un groupe de travail qui s'est constitué autour de l'accompagnement, l'accompagnement de projets comme ça, d'où un travail sur une plateforme, je ne sais pas comment l'appeler, parce que ça fait réagir pas mal, on va en discuter, on a une réunion le 3 septembre, mais voilà, donc avec, on en discute avec les réseaux, hein, que ce soit l'ICOP qui fait figure de tête de réseau sur l'habitat coopératif, ou l'éco-habitat groupé, ou le réseau de l'habitat groupé, ou le réseau national de l'habitat participatif, et j'en passe, et donc où j'ai été reste. Donc il y a ce travail-là, donc ça c'est animé par Raphaël Jourjean, qui s'excuse, on aurait dû être là aujourd'hui, mais avec des problèmes de blocage de route aujourd'hui sur le Larzac, c'est pas évident de sortir de Saint-Afrique. Le deuxième groupe de travail, c'est un travail qu'on mène sur l'installation progressive, alors ça c'est un travail qu'on mène depuis 25-30 ans en milieu rural, hein, tout ce qui est question de petite entreprise rurale, s'installer progressivement dans la durée, avec des résultats, c'était le cœur de métier de relier, donc avec la mise en place de formation comme un volet professionnel de responsable d'entreprise rurale, comme des mises en réseau de structures d'accompagnement qui aujourd'hui se retrouvent dans un réseau qui s'appelle le réseau des CREFAD ou dans le réseau Peuple et Culture plus largement au niveau de l'éducation populaire. Et du coup, on travaille sur cette installation progressive à travers l'habitat léger, éphémère et mobile. Toute la problématique de ce type d'habitat en milieu rural, avec toutes les problématiques que ça peut poser au niveau sanitaire, social, urbanistique, aménagement, mais aussi au niveau social, au niveau écologique, au niveau économique. Donc on travaille pas mal avec la Fondation Abbé Pierre là-dessus, et puis le droit au logement, enfin, différents groupes hein, qui sont constitués, avec aussi toute la problématique des gens du voyage. Le troisième groupe, bah, c'est pas vraiment un autre travail, c'est le travail sur la réhabilitation. Bon, après, du coup, comme on a été retenu par la Fondation de France pour travailler sur la réhabilitation écologique à dimension sociale et participative, voilà, moi je suis chargé d'animer de suivre cette expérimentation-là, et ce qui nous permet bah, d'avoir aussi un travail là-dessus qui s'envoie. Et le dernier groupe, c'est un groupe de travail sur l'outil de finances solidaires. Donc on en est. Enfin, ça fait. Les premières réunions, je ne sais plus, dernière, c'était en 2009, c'est ça, ouais. Donc à la NEF, on a pas mal de deux ou trois réunions à la NEF. Ce travail est né de plusieurs constats. Il est né, la première chose, c'était le fait que Terre de Liens, la foncière, commençait à devoir gérer de l'habitat, du logement, et que Terre de Liens, la foncière, ne savait pas faire. Comment on peut... Deuxième constat, c'était le problème de la spéculation immobilière, notamment en milieu rural, mais qu'on retrouve en milieu urbain plus fort peut-être. Et puis, le troisième constat, c'était la volonté de participation des différents réseaux pour que les habitants participent et que les groupes projets puissent émerger. Donc, on a commencé à se réunir avec Terre de Liens, beaucoup. Il y avait Terre de Liens, la foncière, Terre de Liens, le fonds de dotation, Bernard, qui n'était pas à IGECOP à ce moment-là. Il y avait la NEF, et puis la Fondation France, Fondation Abbé Pierre, et on a commencé à imaginer des scénarios. Il y avait 4 ou 5 groupes projets représentés aussi. Il y avait EcoBoom de l'Opérette en Bretagne, je ne sais pas si vous voulez ça, avec Benoît Deschamps, qui est aussi correspondant d'EF Lorraine. Il y avait le village vertical qui était représenté du coup. Il y avait nous, il y a un petit bout de projet sur Sainte-Afrique, on a acheté une exploitation qui s'appelle la SC Terra Vispace, que je vais essayer de présenter un petit peu tout à l'heure, avec les problématiques financières qui sont en cause. Et puis, il y avait un autre groupe de Paris, je sais plus. Donc il y avait l'urbain et du rural. Et petit à petit, on en est arrivé à un schéma, à une proposition, on a commencé à confronter à différents réseaux, et puis la réunion du 23 février, où vous avez tous et toutes eu comprendu. Aujourd'hui, on va présenter, si je retrouve mon nom du jour. Aujourd'hui, on va présenter là où on en est, je vais laisser peut-être la parole à Bernard pour présenter un peu les avancées des travaux depuis le 23 février, sachant qu'on travaille, il y a un petit groupe de travail impliqué sur la mise en place de cet outil, il est constitué de, on est 7-8 en fait, hein, il y a Bernard et moi-même, il y a Christian, il y a Emmanuel, après il y a Dominique, qui s'excuse pour aujourd'hui, il y a Dominique Schalk et François Taconnet, de Habitat Solidaire, et puis Patrick Marot qui représente la Fédération Nationale des Pactes, vous voyez ce que c'est les pactes, et puis qui est directeur du Pacte Aveyron, donc moi je le connais bien par le fait qu'on est à Sainte-Afrique, enfin, on se croise régulièrement et puis on a fait des choses assez intéressantes ensemble, et puis j'oublie peut-être quelqu'un. Voilà, donc c'est un petit groupe de travail opérationnel, enfin, qui a pour vocation d'être opérationnel et d'avancer sur la question. Sachant qu'on imaginait, moi, au début, j'imaginais un outil type foncière terre de liens, en fait, hein, qui serait appelé FETIER, donc c'était repris sur le grand nom, pour travailler sur l'habitat non spéculatif, participatif. Alors, on a rajouté écologique. Vous remarquerez que je l'ai enlevé tout à l'heure. Et ça me pose beaucoup de questions. Avec au départ trois objectifs en fait. Le premier c'était de pouvoir arriver en un apport en capital sur des projets, au lieu d'aller voir des banques privées classiques, pouvoir avoir un apport en capital sur des. Ce que j'entendais par rapport à la classe, sur des durées très longues, pouvoir avoir une souplesse. Utilisation, même si c'est des coûts un peu plus élevés, mais en tout cas d'avoir le deuxième point qui me semblait important, alors ça a évolué hein, depuis, le deuxième point qui me semblait important, c'était les entrées et sorties dans les groupes, soit d'habitat coopératif, soit d'habitat groupé, soit d'habitat participatif, en tout cas que les gens puissent partir plus facilement aussi, ce qui est quand même très compliqué quoi, dans l'habitat. Et la troisième chose, c'était en cas de coup dur, c'est-à-dire de prendre en compte les accidents de la vie. Le fait que quelqu'un puisse à un moment donné se retrouver sans boulot parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a une maladie, parce que voilà. Donc c'était les trois, ou les quatre coups durs même de la société, du groupe en tant que tel, un accident. Donc c'était les trois points sur lesquels on avait imaginé que l'outil pourrait venir. En milieu rural et en milieu urbain, donc ça c'est une révolution d'en relire, parce que on a travaillé 30 ans dans le rural, donc même si on relie avec l'urbain, manière forte les uns des autres, mais ça va être lié à une vocation rurale, il y a toujours une vocation rurale. Et quand on a commencé à travailler sur l'habitat, on s'est bien rendu compte que c'est compliqué de dissocier. Quand on travaille sur le foncier agricole, c'est facile d'être dans le rural. Quand on travaille dans l'accès à l'habitat, si on ne rattache pas à l'installation agricole, et ce n'est pas notre vocation, puisqu'on est sur l'entreprise bien sympathique, la création d'activités. Puis on a eu beaucoup de réseaux qui étaient sur l'urbain aussi, de toute façon. Au niveau du conseil d'administration, vous voyez, ça n'a pas trop posé de problème. J'en étais étonné d'ailleurs. Après, j'ai envie de te laisser la parole, Bernard, pour peut-être raconter un peu la suite où on en est aujourd'hui. Puis, après, on avait prévu de vous présenter deux cas concrets. Donc, je pourrais présenter rapidement le cas de ce qu'on a nous fait comme montage financier avec la SC Terra Vispace. Et puis, mais rapidement, puis après, ça peut être donner envie aux autres de présenter aussi des problématiques sur lesquelles vous pouvez être aujourd'hui, soit dans des projets que vous avez sur vos territoires, soit dans vos réseaux, pour alimenter nous, notre réflexion et l'action opérationnelle de mise en place de ce type d'outil. Voilà.
Je sais pas. Donc oui, donc on a décidé, effectivement, ça fait pratiquement 2 ans, de créer un fonds financier. Je trouve qu'on a relativement bien avancé, puisque l'objectif qu'on a, c'est de que ce fonds soit opérationnel, en tout cas par rapport à la législation, puisque pour faire un fonds financier, il faut avoir un agrément, et cet agrément est délivré par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. Donc à partir du moment où on utilise les circuits financiers, il faut qu'on rentre dans les circuits. Donc aujourd'hui, on est en train de rentrer dans le circuit, et dans notre calendrier d'intervention, on pense avoir l'agrément de ce fonds février ou mars. Donc ce fonds, on est accompagné par la NEF gestion. Avant de vous donner quelques éléments techniques, je vais préciser un peu à quoi peut servir ce fonds. Donc, ce fonds va servir à deux grandes choses. La première, c'est la logique mathématique, c'est-à-dire on va collecter de l'argent, et on va faire bénéficier de ce fonds différents projets qui rentrent dans l'éthique et les critères de base. On va faire bénéficier certains projets sous différentes formes, mais je pense que la forme principale, ça sera un fonds propre. Alors ce fonds a deux objets, une logique mathématique pour intervenir dans les projets, mais aussi une logique que moi j'avais un peu perçue, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi fort, une logique mathématique. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui beaucoup de projets dans l'habitat participatif groupé à Estéland ne se font pas parce que les différents intervenants, les différentes collectivités, les différentes instances ne se retrouvent pas tellement autour de la table pour réfléchir. Mais dès qu'on essaie de catalyser ces énergies par l'intermédiaire d'un fonds, c'est-à-dire que notre coopérative Ingecop, on est appelé à l'époque ingénierie financière, juridique, architecture, urbanisme et processus participatif, mais on arrive à les études qu'on a en cours, on a une dizaine en cours en ce moment, on arrive à faire venir à peu près tout le monde autour de la table parce qu'on amène, on est susceptible d'amener une ressource financière. On est malin, hein.
Tu n'avais pas pensé au départ.
Hein, non, mais je ne pensais pas que ça allait déclencher. Je pense qu'il y a un événement supplémentaire qui s'est passé, c'est que le Grand Océan, et Christian en parlera, le Grand Océan qui est là plus tard, on a tous une représentation vraiment dans un état catastrophique, hein, et nos collectivités commencent un peu à s'en rendre compte. Oui, commencent à s'en rendre compte par l'entrée de l'économie, parce que par exemple, aujourd'hui, les primo-accédants, ceux qui accèdent à l'habitat pour la première fois, on s'en rend compte, c'est pratiquement à l'heure. Donc, il y a tout ce mouvement où on prend conscience de cet environnement, et puis aussi les collectivités qui globalement se posent les bonnes questions, voilà, les choses. Donc là, cet environnement qui est favorable, on se rend compte qu'on est coincé entre la promotion immobilière et les logements sociaux. Et, voilà. Et donc, on arrive, nous, avec un fonds, en disant, voilà, on va essayer de réfléchir ensemble, mais si on réfléchit, on amène quelques ressources. Et nous, toutes les études qu'on emmène, qui sont en train d'arriver à terme, hein, sur les choix financiers, stratégiques, juridiques, pour être franc, il y a plus de la moitié, parce que les 3/4 des solutions techniques qu'on a trouvées n'ont pas été trouvées par notre expertise de GECOP, hein, mais elles ont été trouvées par les techniciens qui étaient autour de la table et qui ne s'étaient jamais retrouvés. Il y a un technicien de collectivité qui va dire, ah oui, mais nous, on peut utiliser ça, on n'avait pas pensé. Et puis, il demande au bailleur social, parce qu'il y a toujours des relations politiques, que peut-être il faudrait qu'il intervienne, mais autrement. Et puis nous, on dit à ce moment-là, nous, on peut aussi intervenir faire ça. Et le projet, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, hein, faire un projet d'habitat participatif, faire une espèce de livrable, on va réfléchir ensemble pour trouver la solution juridique, c'est impossible. Ça n'existe pas. On le saurait, ça fait 3 ans qu'on se fait des réunions pour ça.
C'est un peu notre position.
Voilà. Alors on peut trouver l'habitat participatif a toujours existé. C'est une spirale qui existe depuis des années. Il y a certaines personnes qui sont regroupées, qui ont fait des projets, qui sont sur des terres. Mais on parle d'une logique industrielle, un peu comme le disait Christian tout à l'heure, par rapport à une demande et à un vide, hein, qui est l'état du logement social. Donc nous, sur ce fond, on s'est rendu compte qu'en plus de l'apport mathématique, hein, on pouvait faire travailler les gens ensemble avec des résultats qui sont basés sur les sciences humaines et les intelligences collectives. Donc là, ça commence à marcher un peu. Et donc les avancées qu'on a dans nos études auprès des collectivités font que nous, la construction du fonds, on en tient compte, Et voilà. Et c'est ces mouvements qui font que à chaque fois qu'on prend une décision sur un, on a une réponse juridique et on a des solutions qui arrivent un peu de tout part. Donc voilà l'objet du fond. Et je vais répondre à la question.
Juste une question, quand tu parles des personnes, de les mettre autour de la table, qui sont ces partenaires?
Alors, ils sont très variés. Alors, par rapport au fonds qu'on souhaite créer, le fonds, on a quand même déterminé dans quel cadre on va l'utiliser, parce que l'habitat participatif, c'est large. Donc, nous, on va on souhaite, on n'a pas encore acté, mais les premières orientations, on souhaite que ce soit dans l'ordre, dans l'ordre d'importance, que ce soit pour du logement, entre guillemets social, mais pas social au sens HLM, au sens étymologique, c'est-à-dire accès à des gens qui n'ont pas accès à un habitat satisfaisant, décent, et en allant jusqu'à la précarité. Voilà. Le curseur, on le met là. À partir de là, on ajoute systématiquement tous les processus participatifs d'habitat participatif. Donc les processus participatifs, on souhaite les mettre en place à deux niveaux, au niveau de la conception du projet, mais aussi au niveau de la vie de l'immeuble dans le temps, pour que ça soit de l'habitat participatif tout le temps, même avec les accidents de vie. Dans un immeuble, il y aura des décès, des divorces, je vous en passe les meilleurs, et les valeurs participatives, la question commence à trouver les plus. Donc, social, participatif, après on a toute la mixité économique, c'est-à-dire que moi je pense que pour faire de l'habitat participatif, il faut déjà avoir un groupe de personnes identifiées qui est plutôt dans une logique de social, et ensuite les gens qui comprennent et qui voient l'intérêt du vivre ensemble, ils intègrent ce groupe. Mais le premier groupe pour nous à créer, c'est plutôt le groupe socialement en difficulté, et pas le contraire, puisque moi j'ai vu sur certains projets, qui étaient intéressants mais qui évoluent dans le temps, puisque ça sort pas de terre. Et à la fin, on dit, bon, on va faire venir quelques personnes dans le cadre du social, en même temps, ils vont prendre du jardin. Donc voilà, on en voit. Donc nous, on est obligé de se positionner clairement. Et donc, on prend ce curseur. Et après, on rajoute encore une troisième couche, je ne sais plus, où on se repose la question de la relation à la propriété et de la relation au patrimoine. Donc la relation de propriété, ça veut dire est-ce que dans ces montages, il faut que les gens soient propriétaires, est-ce qu'il faut qu'ils soient locataires, on se repose la question. Et la relation au patrimoine, ça veut dire que quelqu'un qui est locataire toute sa vie dans cet immeuble participatif, qui au bout de 15 ans part, selon le droit français commun, il part sans rien. Si on se repose la question par rapport au patrimoine, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il ait quand même, qu'il reparte avec quelque chose? Je pense que je n'ai pas parlé là-dessus. Hein. Et la dernière couche qui est importante, c'est la notion, de non spéculatif. Alors, il faut aller un peu plus dans le détail sur non spéculatif. Mais voilà, donc voilà un peu la base. Il y a encore un autre point qui sera incontournable pour le fond, je pense, c'est qu'il y a un engagement fort d'une collectivité. Et on se rend compte aujourd'hui que quand on travaille avec les collectivités, qu'on apporte des outils, l'outil financier, un fonds financier, ce sont les biens, elles sont très intéressées, elles ouvrent la discussion, c'est des facilitateurs, et on ne peut arriver à sortir un projet que s'il y a une implication de l'autre. Voilà. Donc c'est un peu toutes ces 4 ou 5 couches que l'on doit en permanence animer et faire passer un peu une petite autre, qui fait qu'on pourra sortir un projet participatif exemplaire et duplicable.
Il faut redire la
boucle
de départ.
Oh, là,
accès au logement social, processus participatif, mixité économique et mixité sociale, relation à la propriété au patrimoine, non spéculatif et engagement d'une collectivité.
Est-ce que je peux traduire en disant actuellement, par exemple, c'est les gens qui ont accès avec des plafonds HLM? Ou pas.
Oui.
Si on dépasse les 4 points chez l'aide, ça ne va pas dans les
critères. Non, c'est en décembre.
Non, mais
je vais être
sûr, parce que.
C'est plutôt une approche. Ouais, oui, c'est plutôt une approche sociologique. C'est-à-dire, parce que moi j'accompagne un projet, qui est peut-être le cas extrême, c'est des personnes qui sont en maladie psychique, qui sont suivies par l'hôpital de jour, donc qui ne sont pas assez malades pour être dans l'hôpital, et qui peuvent absolument pas se loger.
Mais par exemple, s'il y en a qui, de fait, de leur famille, peuvent avoir des ressources supérieur au HLM dans ces populations-là.
Oui,
alors,
bon.
Qu'est-ce que vous faites là?
Non, non, mais on ne va pas créer une institution et des procédures. On est dans l'innovation sociale. L'innovation sociale déteste les procédures. On est là pour les faire sauter. Donc, on ne va pas en créer.
C'est bien situé, hein, parce que
vous pouvez donner... Non, non, si vous voulez, on n'a pas des critères comptables. On a plus des critères sociologiques.
Sociologique.
Je vais essayer de, le moins possible, ça sera, on ne va pas le faire complètement, mais essayer d'en mettre le moins possible.
Oui.
Et du coup, est-ce que, juste pour peut-être t'aider à...
À comprendre.
Non, c'est par rapport à la question d'Anne François, ce que tu n'as pas tout à fait répondu, c'est le tour de table, c'est-à-dire... Quand vous mettez autour de la table, il y a les services sociaux.
Oui.
J'imagine. Donc du coup, ça enfin, j'ai vu un petit peu les études que vous avez pu mener.
Oui.
C'est qui est autour de la table, effectivement? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'assistance sociale du CSAS ou du conseil général?
Ça peut aussi.
Est-ce qu'il y a un élu qui est chargé du
logement?
Il y a
le général. Il y a en général une bonne implication du maire et des techniciens. Là, nous on passe en retraite.
Ah oui, c'est
le maire
qui donne les ordres.
Je ne sais pas, c'est technicien.
Heureusement, on avait le maire et les techniciens, sinon on n'aurait pas
fait. Donc, qui c'est qui a d'abord la volonté première, c'est la volonté politique, hein, mais politique au sens de la collectivité. Donc, ça part souvent de la mairie, qui lui a identifié dans la politique de la ville, hein, ou du village, le manque. Donc, nos clients ne sont que les collectivités. On leur dit voilà, vous avez une difficulté pour ce village. La cohésion, il y a le centre-ville à 10 ou 20%, c'est très fréquent dans nos villages, appartient à la mairie, vous avez des logements inhabités, vétustes, ben voilà, et que vous voulez rénover, mais les bailleurs sociaux ne veulent pas le faire. Donc on réfléchit avec eux et le comité de paix de pilotage est le plus ouvert possible. Et en général, il y a tous les comités de pilotage, hein, pour être précis, il y a la collectivité, le département, la région, ce n'est pas simple en votre sillon. Il y a les représentants de certaines associations, effectivement le conseil général à travers les travailleurs sociaux, et les représentants des futurs habitants, et des techniciens, et on se retrouve à des âges qui sont en moyenne à 15, et puis la banque. Ou...
Les futurs habitants sous forme associative ou
individuelle. Oui.
Ah, ce qui intéresse, quoi.
Ben, non, ceux qui souhaiteraient vivre dans ce genre
de logement.
Donc s'il y a des associations déjà créées, des associations avec des groupes déjà créés, ben, ils raccrochent.
Oui.
Mais pas que ce que...
Donc, c'est aussi
des individus, oui, on n'y a pas d'importance. Dans les processus participatifs. Donc on oblige aussi par ce pilotage avec des techniciens ou des experts, hein. C'est quelque chose, hein, que les experts soient à peu près au même niveau que les futurs habitants, dès le départ.
Ils doivent prendre du temps.
Pardon ?
Ils doivent prendre un peu de temps.
Non, parce que pareil, ça le font, ça réunit rapidement. Oui. Et puis c'est vrai que, selon je vous parlais tout à l'heure, la difficulté des communes, globalement, les maires à peu près responsables se demandent comment ils vont loger leurs concitoyens dans les années à venir. Oui. Hein, parce que les logements sociaux sont privatisés largement. Parce que là, la plupart des HLM qui sont pleinement, souvent c'est sur 15 ans. Hein. Ils sont dans le parc social pendant 15 ans, et à la fin de 15 ans, qui correspond à un crédit, globalement, beaucoup de logements sociaux
retournent
dans le parc spéculatif. Ah, moi je suis impressionné chez vous.
Ça dépend
où. Ouais.
Chez nous, Claire.
Ça dépend des bailleurs.
C'est
la logique. Oui, mais multiplier, parce que normalement, après, il y a une passerelle sur les HLM classiques. Et comme beaucoup de communes dans nos régions, en fait, dans le sud en tout cas, rentrent dans ce schéma, il arrive un moment où le parc de lui-même.
Sachant que c'est dans les roues, hein, c'est très particulier.
Oui, c'est très spéculatif.
Est-ce que les gens ont mis l'habitant en plus tous les mois?
Non, mais moi j'ai des exemples à Bifontaine. Les gens ont spéculé, j'en ai plutôt des logements sous.
Oui, mais c'est pas la masse.
Ouais,
mais oui, mais si on continue le lent, ça sera.
Après, j'ai oublié une dernière couche tout à l'heure, ouais. Je le couche, j'ai un peu pas mis. C'est la notion de relation au bien commun, au bien public et au bien privé. Nous, tout ce que l'on fait, c'est dans cette logique. Et moi, je pense que le logement, enfin, l'habitat est un bien privé, que l'argent est un bien privé. Alors, bien sûr, votre bien intime entre les quatre murs, c'est intime. Hein. Mais la gestion de l'urbanisme, on je pense que c'est un bien commun, tout ce qu'on fait c'est dans ce sens. Et l'argent aussi, c'est pour ça que la création du fonds a une valeur militante importante, on termine bien. Je pense que l'argent est un bien commun, bien sûr, ce qui nous a pris, les Russes ne sont pas de retour, mais la gestion de l'argent est un bien commun, en comprenant ce qui se passe en ce moment, qui est assez flagrant, hein, on a une crise privée qui est régulée par les biens publics. Hein. Donc le fait de faire un fonds qui ait une espèce de petit pontage, on serait régulé, hein, mais qui passe un peu, d'une façon opérationnelle, ça existera, c'est de remettre l'argent dans la logique du bien commun. Et aussi, quand on demande à une collectivité d'intervenir, elle a la notion de bien public, c'est-à-dire qu'elle ne va pas financer un projet ou participer au financement d'un projet ou s'impliquer dans un projet si c'est pour un groupe privé, au sens juridique du terme. Donc c'est pour ça que la notion de logements sociaux, de bien commun, de bien public et de pérennité, pour que nous on puisse travailler avec les collectivités, il faut que cette notion de bien commun soit importante, donc par exemple non spéculatif ou orientée avec une mixité sociale et économique plus quelque chose à la sociale, font que les collectivités se retrouvent avec un nouvel outil urbanistique. Et je crois qu'il ne faut pas rater le train de notre processus d'habitat participatif, mais il ne faut pas rester bloqué et axé sur le participatif. On doit régler plusieurs choses en même temps. Les processus participatifs qui sont importants et qui manquent dans nos sociétés, mais aussi le problème des logements sociaux, et aussi la relation avec les collectivités pour que les choses avancent. Et moi, je suis tout satisfait des collectivités avec lesquelles je travaille, ça se passe très bien, et c'est un peu plaisir. Alors qu'au début, quand j'allais les voir en disant voilà, j'ai un programme à tel endroit, donnez-moi un terrain, ils m'envoyaient balader, je ne comprenais pas pourquoi. C'est cette notion de bien commun, bien privé. Voilà une vision un peu peut-être décousue, mais j'espère qu'on aura des réactions.
Moi, mes réactions. Enfin, d'abord, une question, je voudrais savoir l'implication des habitants se fait à quel moment ? Est-ce que les habitants seront toujours en amont de l'opération ou alors ils rentreront dans l'habitat clé en main?
Non, jamais. Ah non, parce que là, c'est vraiment, je dis, là, l'enveloppe, c'est quand même les processus participatifs. Les processus participatifs, ça veut dire que ça n'empêche pas que le cadre juridique et financier soit déjà préétabli. Globalement, aujourd'hui, tous les projets ont des difficultés sur le montage juridique et les ressources financières. Ah oui. Donc nous, on est parti à l'envers, on dit voilà, on va essayer de régler ça. Comme ça, vous êtes tranquille, et maintenant, allez-y, faites vos projets. Voilà, c'est ça. C'est juste, on a essayé, c'est l'innovation sociale. Hein. L'innovation sociale, c'est des groupes de personnes qui se créent. L'habitat d'autre part, c'est bien ça. Ça s'organise, ça monte, et ça bloque au niveau des règles administratives, juridiques, des circuits financiers. Voilà. Et l'innovation sociale, selon ma définition, est faite pour intervenir à ce moment-là et faire sauter les verrous, parce qu'il y a beaucoup de monde qui monte. Alors nous, on essaie de faire sauter ces verrous, hein, avec Collier, parce qu'on sait que derrière, vous allez vous emparer de ça. Voilà, la cohérence, ça peut être ça. Mais moi, j'attache beaucoup d'importance au processus participatif et je suis très sans concession sur les faux processus participatifs. Participatif, ça ne veut pas dire qu'un groupe d'habitants se mette autour d'une table, il participe. Ce n'est pas un processus participatif. On est très loin. Il ne faut pas avoir de conclusion là-dessus.
Ça s'appelle de la spéculation. L'idée, c'est un petit peu comme. Je ne sais pas si tu connais bien la foncière, le terre de lien. Où à un moment donné, il y a eu une structure juridique, un bordage juridique avec une société en commandite par action, conjointe avec ANEF, et qui a permis de faire un OPTF, un appel public à l'épargne, en fait, avec l'accord de l'autorité des marchés financiers. Aujourd'hui, on a récolté, je ne sais pas, on est à 22 ou 23 millions d'euros, je ne sais plus exactement. Ça n'empêche pas, alors ça pose question quand même, parce que le fermier il est loin de son propriétaire quelque part. Il a un bail rural environnemental avec la foncière, mais le fermier il est souvent impliqué dans l'association régionale intervenir, qui est majoritaire dans l'association nationale et qui a 45% de la gestion de cette foncière. Alors il est en mixité avec d'autres acteurs qui travaillent dans terre de lien, mais il y a vraiment le fermier, il va être au cœur. Après, c'est lui qui va mener sa vie sur les terres, enfin, en tant que paysan, en tant que... Mais c'est vrai que ce cadre a permis de... Alors, c'est à la marge, hein, parce que c'est 120 ou 130 fermes, on ne va pas acheter toutes les fermes de France, mais de poser la question, en tout cas, de la spéculation foncière et de la terre comme bien commun, là, vraiment, là, où on remet en question la propriété privée individuelle de la terre.
Oui, parce que c'est pas toutes les collectivités qui réagissent comme ça, parce que moi, je connais un département très proche,
qui justement spéculent sur les biens qu'il a, pour pouvoir ensuite vendre au prix.
Oui, mais ça, ça, fait, voilà. Partie, ça fait partie de leur, concept. Mais quand on arrive avec des outils, au début, ça fait 2 ans que j'ai des mobilités. Au début, je dis voilà, je fais de l'habitat participatif, j'avais un peu de mal à leur expliquer un peu ce que c'était. Et puis, bon, ça, ça se passait plus ou moins bien, après coup, ça n'avait pas grand chose. Mais quand on arrive avec des outils à proposer, en tout cas, une base.
Et est-ce que ça règle vraiment le problème quand il y a un changement de collectivité, quoi, la collectivité suivante peut voir revenir sur ce qu'elle a décidé à la précédente? Non, mais
en ce moment, si on se posait cette question, on arrêtait de suite parce que
entre
la fusion des régions, des départements et les élections, les particularités régionales, le coup de vis du gouvernement,
je dis pas ça pour
ne
pas le faire. Non, je dis pas ça pour ne pas le faire, mais il faut le faire.
Oui, il faut le faire.
Je dis ça
Je pense qu'il faut être la logique avec nous, c'est d'être dans l'action, avoir une grande cohérence de ce qu'on fait, que nos actions soient clairement identifiables, voilà. Être à zéro négociation dans nos valeurs, et puis après faire confiance à la
c'est sûr.
Parce qu'on place, c'est pour ça que je dis quoi.
Ce qui est important dans ce que disait Bernard, c'est qu'on est vraiment sur un outil pour que. On l'a entendu aussi par rapport à la colère, c'est un outil opérationnel, mais c'est surtout un outil. De militance, j'allais dire presque d'éducation populaire, c'est-à-dire de se reposer des questions, en tout cas de poser des questions sur l'histoire du logement. Moi, j'ai bien aimé ça dans le travail qu'a fait Émile Karim sur Habitat coopératif et logement social, sur son Master 2, sur son mémoire de Master 2, sur revenir sur une histoire quoi, de la coopération, des castors. J'ai trouvé ça assez fin. Quoi, comme, après, je trouve ça dommage qu'elle ait trop mis sur le national, qu'elle aurait dû recentrer sur l'île et vilaine. Mais sinon, je trouve que ça repose des questions, en tout cas, fondamentales, quoi, sur 8 millions de logements, enfin, 1 million de très mal logés.
Moi, personnellement, je suis enthousiaste de vous entendre, parce que je sors du monde de l'HLM depuis 20 ans, et que je n'ai pas quitté pour rien. Parce que justement, la participation, c'est pas jouable au niveau de l'HLM. Par contre, quand j'entends parler de précarité et puis le choix du public, j'espère bien qu'on va pas arriver comme les HLM, parce que les précaires dits, accueillis normalement par les HLM, si on part des grilles, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'en règle générale, ils ne sont pas accueillis en HLM.
Bien sûr,
parce que éventuellement, même s'ils sont dans les plafonds de ressources, c'est quand même ceux-là qui font des impayés, donc c'est quand même ceux-là qui
débitent. Aujourd'hui, les plus démunis, leur dernière barrière, c'est les copropriétés dégradées.
Voilà.
Les copropriétés dégradées, c'est quand on ne fait pas une copropriété, on passe. Action judiciaire. Hein.
Oui, oui.
Et donc ce parquet, c'est le dernier barrage avant de ne plus avoir de toit, et une mise en route d'une procédure judiciaire, c'est-à-dire qu'on passe par le ministère de la Justice, et donc ça veut dire que le ministère de la Justice est la tutelle des derniers démunis de l'habitat.
Ah, oui.
Et c'est leur vocation première, n'est pas le social. Oui. Pour le contraire. Donc le problème, ça, Christian fait des études là-dessus, vous pouvez parler du coup.
Oui, alors il y avait.
Par rapport à la question tout à l'heure, sur tout l'aspect en amont des habitants, au niveau participatif, cette participation, vous avez une échelle de temps évaluée, parce que je me rappelle Strasbourg, par exemple, quand ils proposent des 10 terrains, et après, donc, une fois qu'ils ont identifié, ils vont chercher des gros projets, ils leur donnent 1 an pour déposer le permis de construire. C'est vrai qu'à Besançon, on est très très lent, parce qu'en plus, comme on veut faire de la promotion, on prend peut-être beaucoup plus de temps que les autres, parce qu'on veut vraiment aller au fond de plein de choses. Alors peut-être que 5 ans, 7 ans, 8 ans, c'est peut-être un peu long, mais entre 1 an qui, à mon avis, me semble hyper trop court, et puis 10 ans où c'est trop long, parce que justement, il y a toutes ces problématiques de relations aux collectivités, de problèmes d'affichage, donc il y a beaucoup de... Il y a aussi la recherche, plein de choses, donc savoir si vous aviez à peu près identifié un temps moyen,
entre guillemets, ça, pour nous ça n'a pas pris beaucoup, on l'a intégré, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, ça prendra le temps que prendra le coup, si ce n'est que là, je parle du montage, dans le cadre de l'intervention d'un fonds financier, et le fonds financier aura comme objet de faire le portage du risque financier. C'est-à-dire qu'en coup, une mairie vous dit, ouais, on veut bien vous donner un intérêt, mais. Dans mon deux, il faut savoir où on en est, parce qu'il y a des contraintes, et globalement, ils n'ont pas tort. Mais si on dit, voilà, nous, on porte du terrain par rapport aux contraintes, on vous laisse 1 an ou 2 ou 3 ans, la parce que le terrain vous est réservé et porté par le fond, ça, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, on prépare le terrain, ça me laisse le temps. Alors on ne fera pas 3 ans, 4 ans, mais vous allez gagner un peu de temps puisque vous n'avez pas cherché le terrain et voilà.
Non, ça sera
de la
location,
pas de l'accession. Ni l'un ni l'autre, ni location ni propriété. Et ça, c'est une autre histoire, on en parlera tout à l'heure.
Vous avez trouvé une solution.
Hein? Avec certaines collectivités, oui. Ce sera possible dans certains endroits, dans d'autres, ça n'est pas. Je reparle de différentes strates. Et à chaque fois qu'on n'a pas toutes les strates, on n'arrive pas à sortir le problème.
Après, là-dessus, je ne sais pas où ça en est chez toi, mais rien que sur Lyon, il y a des lancées sur. Enfin, des réflexions, ce n'est pas encore acté. Mais par exemple sur l'utilisation des baux amphithéotiques.
Sur les amphithéotiques.
Et sur la dissociation justement entre le bâti et le foncier. Pour...
Oui.
Bon, et je crois qu'il y a une grande avancée. Je suis sûr qu'on n'a pas trop travaillé ça techniquement entre nos réseaux, comme j'ai jamais entendu parler. Je trouve un nouvel outil juridique qu'il faudra rajouter, c'est l'ULS. Quelqu'un sait ce que c'est.
Oui, tu me l'as dit mercredi alors.
Oui, non, pas en fait. C'est, je prendrai un peu de temps pour l'expliquer, parce que c'est un outil qu'il faut connaître, que nous, on va sûrement utiliser dans nos projets, c'est l'usufruit locatif social. Ah, c'est rigolo, avant, j'étais dans les organes financiers, on l'avait déjà travaillé dans des noms que vous connaissez. Et je pense qu'on n'arrivera pas à trouver une solution en faisant simplement un montage. Bah, c'est un montage, c'est un fusil à plusieurs étages. On a besoin de règles d'urbanisme, on a besoin de sociétés spéciales autour des structures coopératives, du démembrement, c'est-à-dire de la différence entre les fruits et la propriété. On a besoin d'un fonds, on a besoin d'une collectivité locale ou deux qui s'engagent et qui nous mettent à disposition leur code des collectivités, qui est très complexe. Et à partir de là, je crois sincèrement, les chercheurs n'avaient pas la preuve scientifique, mais je pense qu'on n'est pas très très loin de. Pouvoir trouver des solutions.
Clara, quand on t'écoute par rapport au groupe, c'est. Tu l'as dit tout à l'heure, mais ça n'a pas été forcément relevé. Moi, j'ai fait faire une enquête avec un jeune Sciences Po sur les groupes d'habitat habité. Nous, on est plutôt un producteur de logements coopératifs. C'est que les groupes sont souvent mal accueillis par les politiques. Pour X raisons, ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi, mais de fait, c'est très dur de convaincre des élus d'une démarche. Voilà. Et je donnerai cet exemple, nous avons quand même 400 à 500 logements à notre actif, on est en train de sortir deux opérations à Saint-Étienne. Les élus et les services habitat de la ville, alors qu'on leur donnait nos plaquettes, nos références, etc., ont tenu à venir voir physiquement les opérations qu'on avait faites en coopérative depuis 10 ans. On les a d'ailleurs moqués, les voir les habitants, et on leur dit, je vous jure, ce n'est pas des images holographiques, ce qui est sur la plaquette a réellement été construit. Pour vous donner. Ils sont venus, donc ils ont pris la voiture, ils sont désormais passés, ils sont rentrés enthousiastes, parce qu'ils avaient vu. Mais à la fin, on les a quand même un petit peu plaisantés en disant, non, on est en France, on ne vient pas ni du Rwanda, ni du Tadjikistan, je veux dire, c'est quand même... Donc ça, il y a quelque chose de très 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 important dans ce fonds, c'est que c'est terrible, c'est peut-être cynique à dire, le pouvoir de l'argent, quand on arrive auprès de collectivités et qu'on est capable de dire non seulement j'ai de bonnes idées sympathiques, utiles avec les 5 ou 6 couches que tu as indiquées, mais on a des moyens financiers. Et là, c'est terrible à dire, le regard change. Et pour beaucoup de gros projets, c'est changer l'échelle du temps. Alors que l'écho que j'ai eu un peu partout en France, c'est que certains se sont épuisés pendant un ou deux ans avant même d'avoir une écoute positive des élus en face. Et pendant ce temps-là, les groupes vivent, attendent, il y en a qui n'ont pas tout à fait la même échelle du monde. Donc ça me paraît être un des points fondamentaux du travail que vous faites, c'est rendre crédible, c'est-à-dire qu'on sait, même si on n'est pas obligé par ça, utiliser le veau d'or au profit de projets participatifs. Et c'est vrai que ça change tout de suite l'attitude des collectivités. J'ajoute en plus que les collectivités sont un réseau de réseaux. Dès qu'on en agrège une, si on a un problème avec une autre, j'ai récemment un projet d'éco-quartier qu'on mène où on a deux tendances entre le conseil régional et le conseil général qui se tirent à bout. Pour sortir d'éco-quartier, il faut un accord du service voirie du conseil général.
conseiller régional porte le projet, le conseiller régional peut y mettre, donc on a tous les éléments pour avoir un nœud, on a accroché une des collectivités gérées par laquelle, et après, je ne sais pas comment ils ont résolu. Non, mais par les réseaux, les connaissances, on a demandé au chef de l'avoir raison, demandé au sous-chef, etc. Et on a reçu dans le PC un accord du service, alors que sur le papier, madame le maire était incapable de s'en rester en
adapter. Moi, j'ai même exemple dans le Roussillon. La région m'a dit bon, pour réunion, même s'il y a un département, on ne vient pas. J'arrête tout. Moi, il y a un moment où on ne peut pas rentrer dans ce jeu. Et on m'a rappelé en disant bon, tout le monde vient finalement. Il ne faut pas céder à ça.
Mais dans la restructuration du centre-ville, il y a exactement le même problème.
Oui. C'est tout. L'avantage, c'est d'accrocher une collectivité, au moins, très sérieusement. Voilà. Paradoxalement, elle sait faire mieux le lobbying que nous.
Oui.
C'est ça aussi que j'ai complété. Je n'ai pas voulu savoir comment ils avaient résolu le problème, mais j'avais un point de passage. Ils m'ont dit, l'affaire est réglée. Je ne sais pas par quel truc, si c'est les compagnons du Tastevin, si c'est... enfin, mais ils ont arrangé.
C'est d'une forme de travail.
Tout à fait. Par contre, mais ça tu dois peut-être expliquer, je veux comprendre, c'est que j'ai compris le collecte de fonds, les critères qui vont justifier auprès de ceux qui vont abonder un certain respect, le respect d'une charte. C'est vrai que les gens qui ont mis de l'argent, ils ont entre les fonds de pension et vos fonds, j'imagine, donc c'est pour une autre raison qu'ils viennent. Par contre, je n'ai pas compris totalement, mais tu vas peut-être expliquer, l'intervention du fonds, c'est-à-dire c'est sur des éléments de fonds propres dans le cadre d'un patrimoine constitué, des fonds propres et une partie empruntée ou prise en charge en avance pour les gros projets d'études, parce que souvent chaque projet à développer d'une manière professionnelle, nous dans notre coopérative, chaque projet c'est entre 50 et 100 000 euros. Déjà, comme on peut dire avec Patrick Bruel, il faut commencer à blinder entre 50 et 100. L'étude du PC, les études de sol, les études de dépollution.
Ça, ça coûte au moins ça.
La maquette, alors parfois on arrive parce que je parle que des factures externes, je ne parle pas du temps qu'on avait éventuellement passé, c'est que les factures annoncées. Oui, en général. Et en plus, bon, dans l'outil coopératif, on doit parfois les mêmes à des DCE et des semi-appels d'offres parce que le yo-yo est tel qu'on ne peut pas entraîner les gens. Si à un moment donné, on a dit ça vaudra 1200, 1300 euros le mètre carré dans un bilan et que le résultat d'appel d'offres, il est à 1500, 1600. Donc, il faut aller assez loin dans l'analyse des éléments avec les gens pour revenir éventuellement avec les habitants pour modifier des éléments. Donc ça, c'est plutôt au niveau de... Par contre, cet argent, il est quelque part dans le bilan. Ce qui est délicat, c'est qu'il est à avancer. Donc est-ce qu'il fonctionne en avance sur vos projets, ou est-ce que j'ai entendu fonds propres?
Oui, alors il y a une distinction, en fait. Donc moi, je gère une coopérative qui s'appelle GECOS et qui est en train de devenir opérateur. Donc, promoteur, voire aussi...
aménageur.
Ou un agrément de bailleur en étant adossé. Donc ça, c'est... La coopérative. Après, on crée un fonds, on ne sait pas encore comment il s'appelle. On va dire, GECOP Finance. Un fonds, mais qui n'a aucun lien capitalistique avec un GECOP opérateur. C'est-à-dire que c'est un fonds national qui pourra être utilisé dans des fonds, dans des projets d'un GECOP, mais aussi dans des projets de concernant ou d'autres projets. C'est cette structure nationale. Et c'est à partir du moment où on a pris cette ampleur nationale, c'est-à-dire qu'il n'était pas juste qu'on a intéressé les institutionnels, mais évidemment important, comme pour récupérer de l'argent par rapport au grand emploi de Sarkozy, la machine s'est mise en route là-dessus, avant qu'on ait commencé la collecte. Mm-hmm. Voilà. Alors, ensuite, pour le
type d'intervention.
Pour le type d'intervention, donc il y a effectivement les règles qu'on s'est posées. Moi, je pense que, parce qu'on a un fonds, donc il y a des investisseurs, il y a une notion de rentabilité, donc il y a une notion de patrimoine. Donc on interviendra plutôt en fonds propres, et comme le fonds raconte des réserves, on pourra aussi faire le portage du risque en avance. Donc on pourrait intervenir sur les deux.
D'accord.
Idéalement, on aurait besoin des deux pour accompagner les groupes.
On garantit, parce que moi
j'ai pas. C'est-à-dire, si vous réservez le terrain, les premiers frais sont conséquents, à ce moment-là.
Les frais dont parlait d'ailleurs, tu
parlais. Voilà. Voilà. Et après, comme Terre-Denis intervient quand ils achètent une exploitation agricole, ils en sont propriétaires. Ouais. Donc nous, on souhaiterait créer du patrimoine, donc rester propriétaire. Et donc c'est pour ça que dans nos montages, tout à fait adapté s'il y a un démembrement, donc on achèterait la nue propriété, la nue propriété avec en s'appuyant sur le locatif. Et puis après on verra comment l'usufruit rejoint la nue propriété et la sortie. Ça c'est selon les projets. Mais il y a besoin qu'on ait du patrimoine, parce que l'immobilier prend de la valeur. Il faut que le fonds continue à vivre, il faut qu'on finance d'autres projets.
Oui, non, c'est pour ça que je pose la question de ta rémunération, parce que moi, j'ai fait des financements sur les coopératives d'habitants de Hambourg, qui font appel au fonds, et donc ils ont un système, les gens mettent des fonds, et ils servent un intérêt, oui. Ils donnent à la caisse d'épargne plus 1,5%. Hein, donc on a compris que les gens ne sont pas dans la spéculation, et à la limite, le 1,5% qu'il y a, c'est quasiment l'impôt. Puisque la caisse d'épargne, comme chez nous, est exonérée. Donc, au contraire, ils ont un revenu net comme s'ils mettaient sur un livret A. Mais pour avoir ce petit revenu, il faut bien que dans les bilans d'origine financière, il y ait une ressource.
Voilà. Hein,
c'est pour servir aux investisseurs solidaires allemands 2,5%, il faut bien qu'il y ait en face, avec 0,2 de frais chez nous, quelque chose qui rapporte 2,5. Voilà, donc c'est ça que je voulais savoir.
Alors, en fait, les investisseurs auront plusieurs rentabilités, donc ça c'est un OPTR, donc ça rentre dans le cadre de l'ISF, qui existe encore, donc ils auront une économie d'impôt sur l'ISF, ils auront une économie d'impôt sur l'IF, ils auront une petite rentabilité, et on verra ce qu'ils ont une plus-value à la sortie. Et alors, il faut articuler tout ça avec le social, on pense que l'argent va être disparaît, et on peut prouver qu'économiquement, pour les plus démunis, ça marche aussi avec une rentabilité. Alors c'est un peu compliqué. En plus, nous, la structure qui va être laissée intacte du fonds, le fonds en PTF, c'est simplement un agrément. En PTF, c'est-à-dire, c'est un agrément. Mais depuis qu'il y a une société qui récupère cet argent, et cette société, ce fonds sera une cible, sera une coopérative. C'est très compliqué, c'est très compliqué de faire un fonds sur une coopérative parce que c'est du capital variable.
Ça n'existe pas.
Ça, en fait, ça n'existe pas. Voilà. Ils n'ont pas la case, hein. Mais ça devrait passer.
Il faut qu'on ait l'appui de vos structures pour que ça passe.
Voilà. Donc aujourd'hui, il y a
des niveaux de fonds qu'on peut appeler.
Et aujourd'hui, comme ça, sans avoir collecté, hein, simplement notre premier tour de table est sur les institutionnels qui souhaiteraient nous accompagner. On est à peu près sur le papier à 5 millions d'euros sans avoir pas fait grand-chose.
Côté d'un
loyer. Ça serait bien. Non, pas très loin.
Non, mais c'est à la fois énorme.
Voilà. Mais voilà. Il y a une collecte supplémentaire auquel on n'est pas prévu parce qu'on a croisé l'ERDI, je sais si vous les connaissez.
Oui.
L'ERDI.
Non, c'est l'ERDI, ouais, enfin, ils font partie du réseau. Enfin, je ne sais même pas si l'ERDI.
Non, mais ça c'est le Crédit Coopératif qui nous l'a dit. Il y a l'ERDI qui devait faire un fonds. Il y a aussi le Crédit Coopératif qui devait faire un fonds. Voilà. Et donc nous, on était au bon endroit au bon moment, on dit bon, il y en a déjà qui a peu avancé, on voit sur quel projet c'est. Donc il y a aussi un environnement, puis la caisse, dès qu'on peut récupérer d'argent avec le grand emprunt, ben, peut-être que la caisse des dépôts de consignation, pour eux, c'est déjà un feu vert. Voilà. Donc tu sais, hein, l'argent, voilà, malheureusement. Et bon, c'est pas gagné, hein, mais sur le papier, ça paraît. Ça nous amuse beaucoup. Alors là aussi, le fond, là, on pense avoir l'agrément pour février-mars, et je peux vous prendre la secrétaire, ça sort de la ligne. Hein.
Bonjour. Vous êtes en retard. Ça fait 3 en retard, là.
3-4. 1h15 de retard. Ça, c'est côté.
Monsieur Chalemando.
Ça s'interdit mieux, moi.
Ah ouais, c'est ça. C'est fou, hein, c'est ça. Donc, Dominique, je enfin, présentez-vous rapidement, peut-être les trois qui viennent d'arriver.
Hélène Parfajo, je fais partie de Copangère, coopérative d'habitants à Saint-Germain. Je me suis perdue.
Ah mince. Excusez alors. Vous êtes excusé.
Bonjour.
Dominique Doré, donc membre du conseil d'animation de.
Du conseil d'administration.
Avec un projet des communes dans les Cévennes et avec Pierre, on a monté une association Écosif sur la valorisation pour aider des propriétaires à travailler dans le massif central.
Alors, Pierre, vous savez, j'en suis trésorier.
Les propriétaires.
Oui, je suis propriétaire, ce qui m'intéresse, moi, c'est la dynamique des personnes âgées. Donc, comment faire pour réinsérer dans une vie sociale. Et puis, c'est ce que je retard, mais on était à un séminaire sur l'économie et spiritualité
dans
la montagne, et voilà, c'était très intéressant. Et, excuse-moi.
On espère que Vincent pourra partir parce qu'il y a des problèmes à Marco.
Et pareil,
il y a des explosions. Mais c'est grave ou pas grave? La personne chez qui je devais héberger ce soir est en train de partir en direction de Montpellier.
On les déménage les gens ou elle part d'elle-même?
Elle est partie lui-même.
Bon, j'ai un train 17h05.
Il va passer.
Je suis allé à une bonne
costume.
Réaction. Moi, au niveau de l'habitat groupé, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est la mixité. J'ai, en principe, sociale, générationnelle, bon, culturelle, et ainsi de suite. Donc, comment vous voyez cette mixité sociale? Et puis, il y a aussi une chose au niveau des groupes-projets. Très souvent, et puis dans notre groupe, le cas se pose, il y a des personnes donc, qui n'ont pas beaucoup de revenus, mais par contre, qui ont un bien qui sont acquis, dont ils sont propriétaires. Donc, ce qui fait que pour accéder donc, à un logement de l'habitat groupé, il leur faut vendre ce logement pour pouvoir acquérir leur part, ainsi de suite, dans le nouveau logement de l'habitat groupé. Est-ce que vous pourriez vous situer un petit peu de l'entre-deux, faire des avances comme ça qui soient remboursables ensuite par le groupe ou la société ou les individus, je ne sais pas.
On ne serait pas une banque, hein. Là ça c'est le rôle d'une banque.
C'est le rôle d'une banque.
Voilà, non.
Oui, non.
Oui, on pourrait, mais en gestion. Pour répondre à la question sur la mixité, oui, pour nous, elle est.
Et comment justement faire vivre cette mixité-là, puisque là, le fonds, a priori, vous ne le réserveriez qu'à des personnes qui n'ont pas ou peu de ressources.
Non, le fonds est réservé à la création, le fait de faire un immeuble coopératif, participatif, social. Donc ça bénéficierait à l'immeuble.
Mais social, ça veut dire quoi? C'est ça le.
Social, ça veut dire des gens qui n'ont pas accès à la précarité. Aujourd'hui, soit on part dans le parc privé, soit on a un HLM. Voilà. Nous, on pense que ça se passe avec les collectivités. Il y a des solutions intermédiaires. Il faut remettre. Tous nos montages sont partis sur. Il faut tout remettre à plat. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas grand-chose de ce qui existe actuellement en l'état. On réutilise tout, mais différemment. C'est-à-dire que globalement, les gens qui seront dans ces projets ne seront ni locataires ni propriétaires. Ça sera une accession à la propriété progressive et le bien qu'ils pourront, ils ressembleront plus à des propriétaires et quand ils partiront, ils auront un bien comme un propriétaire.
Donc, ce qu'on veut dire, c'est que les gens qui ont déjà des biens, ils sont pas pris.
Mais non, franchement, on ne peut pas discuter. C'est trop tôt pour discuter ce genre de détails. Après, on va voir la configuration.
C'est pas le détail.
Mais
ça
ne
veut pas dire.
Non, mais là, vous, votre entrée, c'est la propriété. Là. Voilà. Nous, c'est pas
non, non, mais en fait, non. Pour répondre à Anne-Françoise et à Cécile, c'est que des gens qui ont des biens pourront accéder à ce type de.
Mais oui,
il
n'y a aucun problème. C'est
ceux qui n'ont pas d'argent.
C'est accessible à toutes et à tous, mais c'est aussi accessible à des gens qui n'ont pas de thunes.
Oui, mais ça, c'est ce qu'on souhaite.
Mais ceci, l'entrée, c'est souvent c'est des gens qui ont un peu d'argent, voilà. Qui se regroupent et qui après disent tiens, on va faire venir des gens qui n'ont pas d'argent. Nous, dans notre articulation intellectuelle, on fait plutôt le contraire. On réfléchit pour que les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'accès, puissent avoir cet accès. Et si après, il y a des gens qui ont des biens ou qui ont des revenus ou qui souhaitent accéder, qui souhaitent intégrer ce groupe, ça sera ce qu'on veut favoriser.
Notre entrée, je suis d'accord avec vous. C'est justement. Attendez, aujourd'hui, les gens qui ont ce genre de projet, il y a très peu de gens qui croient que c'est possible quand ils n'ont pas d'argent. Et c'est un constat.
quand on se réunit, quand les groupes projets se réunissent, il y en a certains qui disent ben, « moi j'aime bien », il y en a quatre qui disent « moi j'ai pas de bien ». C'est ça la réalité d'aujourd'hui.
Et ben, c'est ce qu'on veut faire, c'est nous, on veut que tout le monde puisse y accéder. Voilà, ceux qui n'ont pas d'argent, on les aide par les montages. Et ceux qui ont de l'argent, ils ont... Soyez, on va dire que c'est moins compliqué pour eux.
Soyez vigilants, ne pas éliminer. Voilà.
Ah non, non, mais voilà. Bon, on ne pourra pas non plus avoir une mixité qui sera exactement qui fait toutes les strates de la population. Non, mais en tout cas, nous, la mixité sociale et économique, on la veut réelle.
Voilà.
Et la porte d'entrée, c'est plutôt ceux qui sont en difficulté. Et ceux qui ont un peu d'argent, ça nous inquiète moins.
Oui.
Voilà, c'est ça que je veux dire.
Est-ce que je peux me...
C'est pas grave, t'arrives en retard.
Est-ce que je peux reformuler par rapport... nous, à Besançon, en mai juin, on avait une réflexion assez utopique. En fait, on se disait, en petit groupe, idéalement, pour sortir... la problématique du logement par rapport, mettons, à des personnes en précarité ou qui ont peu de revenus, dont je fais partie, on se dit, à la fois on veut la propriété collective pour éviter la spéculation et puis pour garder l'aspect j'ai l'usufruit d'un logement mais il ne m'appartient pas, donc j'en fais pas ce que j'en veux, il reste collectif. Et d'un autre côté, si on permet par exemple l'accession à la propriété SIAPP ou autre, ça finit par une copropriété. Donc finalement, on ne trouve pas de structure qui permet de garder la propriété collective, tout en permettant des personnes en précarité, qui payent un loyer, qui, si le jour où il part au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, il perd de tout. Et l'idée, c'est que ce loyer puisse être transformé en une espèce de part sociale, ou en tout cas un droit à usage d'un logement. Parce que c'est un peu l'idée.
Oui, complètement. Sur l'articulation juridique. Pas tout à fait, mais sur le notre objectif, c'est celui-là. Tous les montages sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est simple. C'est un. Par exemple, c'est simple, c'est le principe le suivant. Donc on travaille, ça peut être du neuf ou de la rénovation aussi. Prendre un exemple, celui qui est le plus avancé en rénovation, c'est une commune qui est propriétaire de 25 appartements, des biens qui viennent de d'autres mandats. Hein. Donc ils ne sont pas loués, ils sont vécus. Donc elles souhaitaient transformer ça en logements sociaux, ouais, de façon classique, elle a été voir les bailleurs sociaux, et ils leur ont dit nous on ne sait pas faire, parce que ça faisait partie d'eux, mais on ne sait pas trop faire ce genre de.
Parce que c'est là que
ça
se fait bien quand même, parce que c'est la tête, parce que ça se fait dans le.
Oui, voilà. Et c'est là qu'ils nous ont demandé de réfléchir avec eux sur. Sur un montage, ça ressemble un peu peut-être à la fêtière de Lyon, où les gens vont pendant 15 ans être ni propriétaires ni locataires. Je vous laisse régler vos problèmes dans la pratique. Merci. Et donc, les gens vont être pendant un moment ni locataires ni propriétaires, en jouant sur le démembrement, et au bout de 15 ans, ils seront le bien par un système d'accession à la propriété en pleine propriété, si ce n'est que. Le bien qui a une valeur marchande dans le village, dans le quartier, qui n'importe quoi, de 100 000 euros, aura coûté beaucoup moins cher. C'est déjà la première ressource, c'est la collectivité. La collectivité va donner le foncier, c'est-à-dire l'immeuble délabré, et le terrain. Alors c'est sûr que la réhabilitation coûte très cher, hein. Donc on va le réhabiliter, mais grâce au fonds, on va avoir une croisée de ressources financières qui n'étaient pas croisées jusqu'à présent, en tout cas pas utilisées. Et donc l'occupant, au bout de 15 ans, va se retrouver avec un bien qui aura une valeur de 100 000, mais qui ne nous aura coûté que 40 000, et lui pourra le revendre 40 000 ou 41 000. Voilà. La différence, on réagit non pas par rapport à la propriété, mais plutôt par rapport à la location. On peut parler du principe que c'est un locataire qui a payé un loyer pendant 15 ans, et à la fin de son loyer, au lieu de partir avec rien, il repart déjà avec un patrimoine qui est 40 000 euros. Voilà. Donc le principe qu'on adapte, mais l'idée de base, c'est ça. Il y a un moment où on arrive à cet outil. La notion de mixité se fait naturellement, il y a des gens qui sont intéressés, voilà, ça génère d'autres choses, d'autres approches, et du coup, ça simplifie beaucoup la relation. Et alors quand on fait par exemple dans ce quartier, c'est de 19 lots hein, qui sont à peu près dans la même rue, et on a une chance énorme dans ce cas, il y a au milieu, dans une salle des fêtes qui est obsolète, qui est peu utilisée, donc ça va nous servir d'habitat participatif et de salle commune, donc on a réfléchi avec des urbanismes, je pensais qu'à l'état participatif, les pièces communes l'intérieur sont faites pour communiquer, mais il faut aussi que ça, soit, que ça communique sur l'extérieur. Voilà. Et donc avec tout ça, on a un laboratoire formidable et on arrive à faire des processus participatifs où des gens en grande précarité, voire peut-être des Roms, vont venir s'installer ici, parce qu'il y aura un ou deux appartements pour le passage, et ça remet une mixité à l'intérieur des villes et ça règle beaucoup de problèmes.
Et ça, ils sont jamais propriétaires,
moi c'est si. Voilà.
Oui.
Ouais,
oui. On renvoie à ça, ceux qui sont en PLAU et PLU.
Non, non, je ne sais pas. Des gens en rentre déjà.
Pardon,
on n'est pas dans. On essaie de sortir en
lutte.
C'est
ça.
Mais vos collectivités, elles acceptent de s'engager sans qu'il y ait un plafond maximum de revenus.
Alors on est en train de définir des critères, des revenus, mais c'est plutôt relayé par les associations ou les travailleurs sociaux. Mmh. C'est vraiment du cas par cas. Et on sait que dans cet endroit, il y a un besoin de clients, des appartements pour telle population. Et mmh. Donc c'est la concertation, le comité de pilotage fait que. Dès le début de la concertation, les futurs habitants sont déjà repérés.
Là, il y a un besoin.
Mais oui, on démarre, Christian le disait bien, on démarre par rapport à un besoin, mais un besoin vers des gens dits dans les sociétés ne veut pas dire qu'on n'inclut pas des processus participatifs dans l'élaboration, mais aussi dans la vie de l'immeuble par la suite. Et là, comme c'est très défini, hein, c'est-à-dire que les gens sont tous prêts une redevance, après ils sont propriétaires, il y a déjà, c'est facile de faire des choses ensemble. Il y a déjà le processus participatif est déjà en partie réalisé. C'est plus facile qu'avec des propriétaires, aujourd'hui. Enfin bon.
Après, je voudrais quand même souligner l'apport énorme du dispositif de Bernard, c'est qu'on n'analyse plus chaque candidat par rapport aux critères bancaires de sa solvabilité et de la garantie qu'il a. Avec, ben vous êtes en CDI, mais votre femme est en CDD virée, etc. Donc on a vraiment un ostracisme terrible au niveau du candidat à l'accession, même en accession sociale, qui habite les HLM, qui sont les plafonds de revenus, mais il y a aussi d'autres critères de précarité ou de risque pour le système bancaire. Le système que vous faites là, derrière, on travaille sur l'objet, la mise en commun, le lieu de vie, et chacun va y participer. Et à la limite, bien entendu, il va y contribuer suivant ses revenus, ses moyens, mais son statut, comme il ne va pas être pris individuellement sur un prêt, sur un de ce type d'éléments, éventuellement qu'il soit comme un banquier précaire, par exemple, un grand classique, moi j'ai des soudeurs à Fos-sur-Mer qui enfilent les contrats d'intérim et qui, depuis 18 mois, n'ont pas eu une période de chômage. Virés par les banquiers. Dangereux. Là, on est déjà dans une avancée importante, c'est-à-dire qu'on a mutualisé, il y a déjà l'aspect solidaire et coopératif de cet élément.
Un des propriétaires sera le fonds. Donc,
voilà.
On peut choisir qui on veut convoquer.
Voilà. Et après, le fonds, les banquiers vont analyser le projet, les aimants, la crédibilité, mais ils ne vont pas prendre individuellement les gens qui sont potentiellement. L'autre aspect que je vois, puisque ça peut être, c'est que la mixité dont parle Anne-Françoise, c'est que. Aujourd'hui, moi, à ma connaissance, on est assez démunis pour la garantir dans le temps. On peut, en effet, avoir un gros projet sur lequel, en faisant une très attention, en tenant compte des expériences des uns des autres, d'avoir vraiment une mixité intergénérationnelle, sociale, pas un groupe de happy few qui disent « Bon, après, il me manque un ou deux pauvres pour terminer le groupe. » Moi, j'ai même pas envie d'enquête nommée. Hein,
oui,
voilà, pour terminer le panorama. Mais néanmoins, ce groupe va continuer à vivre. Il va avoir son histoire. Il y a des couples qui vont se séparer, il y a des gens qui vont quitter, qui vont être mutés. Mais ce que je veux dire, c'est que après, c'est en fonction du team building qui aura été fait entre les gens, le rappel qu'ils vont avoir sur l'ambition qu'ils avaient, que quand il y a, j'allais dire, un senior qui s'en va, on va essayer de trouver prioritairement un senior. Et ça, ça doit vivre. Et là, on est au-delà des porteurs de projets, du fonds, mais autres. Autrement, on tombe dans un système semi-soviétique en disant « Ah ben non, nous, le remplaçant de M. A qui est parti, c'est 55-65 ans, sous les plafonds HLM, et deuxièmement, ayant pas plus de 3 enfants. »
Si c'est possible,
moi je vois
tout ça, parce que c'est ce qu'on dit.
Ça, c'est, pour nous, c'est une des valeurs qui a bien été reprise. C'est une valeur, mais qui est pour nous un problème important de société, si on prend même une analogie avec l'alimentation d'urgence, avec le resto du cœur, ou alors ces organismes qui sont parfois de connotation catholique, hein, je trouve qu'ils entretiennent la pauvreté. C'est-à-dire déjà, pour avoir droit à ça, il faut montrer sa carte de chômeur, il faut montrer ça, il faut montrer ça. Et je pense que tout le monde doit avoir accès à l'alimentation et qu'il ne faut pas stigmatiser. Et donc, nous, à repartir sur des processus où on a quelques outils techniques, surtout évitant de repartir sur ça. Et on peut, je pense, que faire confiance aux intelligences collectives, parce que lorsqu'on peut les mettre en place, on est toujours surpris de ce qu'on peut en faire. Il faut se laisser cette marque.
Concrètement, si quelqu'un part, il revend son bien à la coopérative ou il
non. Cherche. Si, alors, ça dépend du montage, mais le montage idéal, parce que quand il repart, il récupère ses loyers.
Et après, le logement
est géré même par le groupe d'habitants, hein, qui coopte. Enfin, c'est ceux qui fixent les règles des entrées et des sorties sur voilà, ça appartient au groupe, ça. Ça voilà.
Oui, dans les loyers, juste pour vous donner cette info, si vous voulez, on a travaillé à Strasbourg sur cette idée de récupérer les loyers. Nous, on travaille aussi parallèlement, donc sans s'influencer. Hein.
Oui, c'est vrai.
Et je donne toujours aux habitants cette clé. Quand vous empruntez 100 000 euros sur 25 ans à 5%, vous remboursez 200 000. Oui. Hein, c'est facile à suivre. Vous regardez sur une calculette financière, vous payez autant d'intérêts que le capital. Donc, le loyer que vous allez payer, la mensualité, d'une certaine manière, sur ces 25 ans, il y a 50% d'intérêt, 50% de capital. Donc, quelqu'un qui va payer 400 euros pendant 25 ans correspondant, on va dire, à cette part de ces 100 000 qui correspondraient à la valeur éventuelle de la nuit propriété qu'on lui offre, etc., il faut bien se rendre compte que dans son loyer, il y a une partie incompressible qui va au paiement du loyer de l'argent. C'est-à-dire, voilà, c'est quelque part, nous on dit, il y a 20% pour les frais généraux, la provision, grosse réparation, il reste 80, sur les 80%, il y a 40% qui vont payer au loyer de l'argent, qui est un tiers extérieur et dont on ne sait pas faire 100, et le reste est en effet capital. Et sur ces 40%, en effet, nous on travaille aussi comme Bernard sur l'idée de récupérer tout ou partie 60 à 70% de ça. C'est-à-dire que en clair, je n'ai pas payé à fond perdu et je récupère, alors nous on utilise le terme le
soute.
Voilà, c'est une soute de sortie.
De notaire.
Voilà.
Avec de
notaire. Voilà. Une soute de sortie. En clair, l'idée c'est que je n'ai pas payé à fond perdu, je laisserai quelque chose à mes enfants. Enfin voilà, c'est cette notion que j'ai participé, mais bon, j'ai.
Je laisse de l'argent,
je prends
du logement.
Voilà.
Bah, du coup, c'est sur ça que vous intervenez, mais je reviendrai quand même. Dans la PTA Habitat Coopérative sur laquelle on travaille avec le Grand Lyon, on imagine un entrant qui paye un loyer en dessous des coûts du loyer pour le quartier dans lequel il va se trouver, plus un surloyer ou une part acquisitive de sa part sociale dans la PTA, qui serait, c'est cette partie-là qui lui serait ensuite remboursée au moment du départ. Et ce que je voulais savoir, tu as évoqué l'usufruit locatif social, comme si c'était une notion courante.
C'est une notion courante en fait.
D'accord. Très courante.
Parce que ça ne semble pas du tout si courant.
Je peux même une grosse société avec ça qui fait ça.
En fait, c'est Perle, moi les avais accompagnés dans mon métier.
Voilà, PER, alors, recherchez sur Perle sur Internet.
En fait, l'usufruit, c'est une articulation juridique qu'on peut utiliser. Mais il y a eu un promoteur qui a bien utilisé il y a quelques années, où il a bien dissocié l'usufruit de la propriété. Simplement, l'objectif était de vendre des appartements qui étaient invendables parce que c'était très cher. Donc il s'est dit, je vais vendre l'usufruit à des gestionnaires, donc eux ils vont le louer, ils vont avoir une bonne rentabilité parce qu'ils achètent l'appartement de moitié moins cher, parce que l'usufruit, globalement, on va dire c'est 50-50. Donc ils achètent un bien qui coûte 200 000, ils vont acheter 100 000, ils vont le louer en n'ayant investi que 100 000. Et il y a un propriétaire qui lui achète la nue propriété et qui ne touche absolument rien pendant 15 ans. Il ne paye pas d'impôt, il n'y a rien. Mais au bout de 15 ans...
Pas d'ISF,
mais tout. Et au bout de 15 ans, l'usufruit rejoint la nue propriétaire. Et donc, ce propriétaire se retrouve avec un bien qu'il a acheté à moitié, puisqu'il a acheté la nue propriété à 50. Il se retrouve avec un bien qui vaut 100, mais 15 ans par rapport, peut-être aujourd'hui il vaut 150. Donc, il a un bien de 150 et il n'a investi que 50. Donc, pour des gens qui ont du patrimoine, c'est important. Donc, l'idée, c'était ça au départ. Et comme ce promoteur est encore plus malin qu'on le pensait, il a dit l'usufruit de le proposer à des privés, je vais le proposer à des bailleurs sociaux. Et tout d'un coup, on s'est dit, tiens, c'est pas bête. Et donc, c'était pas utilisable en l'état, parce qu'il fallait que ça rentre dans la loi SRU, une collectivité soit intéressée, ça rentre dans la SRU, il fallait qu'il y ait quelques règles fiscales, donc il y a deux lois de finances qui ont modifié ça, il y a une loi, un empilage de six lois, qui a créé l'ULS, l'usufruit locatif social, ça veut dire que quelqu'un peut louer, donc l'HLM achète l'usufruit, il loue ça donc à des HLM tout à fait classiques, et au bout de 15 ans, l'usufruit retourne au propriétaire, et le locataire, on est obligé de lui reproposer quelque chose dans les mêmes conditions, où il est prioritaire pour acheter l'appartement, où il rentre locataire dans le droit commun. Donc nous, on utilise ce montage carré
en droit.
Voilà, oui, alors là, quand on parle de ça sur une collectivité, avec un jury, c'est clair, même précis, c'est récent, hein, ça a été fait sur les 4 dernières années, toutes ces fois.
C'est surtout dans les régions où Antibes, à Sophie Antipolis, à Cap, on a un temps d'arrêt d'eau.
Ah oui.
Et c'est parce que les gens qui achètent ne touchent rien pendant 15 ans, mais ils font le jackpot de 15 ans. Ils n'ont pas payé d'ISF pendant 15 ans.
Comme le disait Jacob, il y a eu une pression parlementaire, du lobbying honteux. Résultat, on est là. Et nous, cet outil, en plus des autres, qu'on connaît tous, s'il est honteux à la sortie, parce que les gens, en gros, c'est un promoteur qui se gave sur les fonds qui viennent des HLM. C'est inacceptable. Voilà, dans le principe. Nous, le point, la seule chose, c'est que le propriétaire, c'est nous en même temps, à travers le fonds.
Voilà.
Parce qu'on sera propriétaire, même de propriété. Donc, on pense qu'on pourra régler, en principe, on sera des gentils propriétaires. En tout cas, avec Rolly, on fait attention pour bien couper. Non, mais ça a l'air que je plaisante. Mais la notion de pouvoir dans une coopérative, le pouvoir, c'est pas l'argent. Le pouvoir, c'est protéger les valeurs tout le temps. C'est pas simple. Donc, nous, on pense qu'avec ce démembrement de l'ULS, qui est collectivité à l'heure, parce que c'est pas un nuage de fumée, on va pouvoir régler des problèmes avec toujours cette couche de mixité et de participatif. Parce que ça nous aide encore plus, parce qu'en fait, les gens qui sont locataires sont en même temps, auront peut-être des parts dans la propriété, donc ils seront en locataire et propriétaire. Bon, c'est facile, on prend pour intérêt, mais ça met. Je gère bien parce que je prédis un peu plus social,
mais c'est un bon gazier. Il faut bien que ça vaut, tu es un bon gazier.
Il faut aussi garder en tête que sur l'âge, quand à la sortie, ce montage qui permet à la sortie en fait, d'être propriétaire, c'est ni plus ni moins, sauf que le montage juridique a changé, mais c'est ni plus ni moins ce qui était prévu dans le montage des 47, où on était locataire en acquisition, sauf que c'était à 60 ans, là c'est à 15, parce que, comme tu dis, les gens qui sont derrière ce montage sont des sales spéculateurs, pour parler clair, à l'origine, donc très bien, on va se servir de ce modèle. Moi j'ai une question, dans vos recherches, vu que par rapport au community non-trust, le fait que c'est maintenant transposé en Belgique et que donc le droit belge est encore même beaucoup plus proche du droit français, que ça se rapproche sur le community land trust en deux mots, c'est le fait qu'on dissocie le foncier et du bâti et que le foncier en gros reste ad vitam aeternam dans le trust et donc il faudrait que je schématise au tableau, mais ça voit très, on voit très bien qu'au bout de deux ou trois rachats, la différence entre le prix racheté dans le bien de community land trust et le prix si on était en marché libre, c'est complètement déconnecté. Parce que le foncier en gros est gelé et c'est quand même ça qui fait l'envolée des prix à l'heure actuelle en France, c'est pas le prix des matériaux, mais si les normes BDC augmentent un peu les matériaux. Vous avez là-dessus, vous avez pas du tout. En termes de réflexion, pas du tout. Vous, votre angle d'attaque juridique, c'est l'ULS.
Ah non, c'est un des outils.
C'est un des outils. Je me demandais, c'est un des outils, mais c'est pas.
C'est une espèce de catalyseur qui arrive à la fin du projet et tout ce qu'on a pu voir régler, comme le non spéculatif, parce que le spéculatif, ça se crée à la constitution française, c'est dur. Là, donc, du coup, on s'en fout du non spéculatif, parce que le propriétaire, c'est nous. Ça pourrait être nous, donc voilà.
Nous, notre angle, c'est celui-là. Et sur le, par contre, nous, le système du trust belge ne peut pas fonctionner en France,
ouais.
Puisqu'en France, on est, on ne s'est pas allé au-delà de 99 ans.
Ouais.
Et même toute clause, on a fait étudier à nos avocats, toute clause qui, au bout de 99 ans, relançait un bail de 99 ans est considérée comme non écrit,
et oui.
Nul et contre la loi.
Ah oui,
pas le droit de louer plus de 99 ans à travers un bail. Voilà. Donc on travaille nous plutôt sur une approche plus traditionnelle de foncière, un peu comme font les Suisses. Les Suisses arrivent à monter des systèmes sur des financements de 70 à 80 ans. Tous les banquiers avec qui on travaille ne savent pas aller en France à plus de 35-40
ans.
40 ans, c'est le max. Donc, aujourd'hui, l'idée est d'avoir un outil financier pour porter le foncier. Je donne d'ailleurs un grand pouvoir sur la vie de la coopérative, de l'outil, de l'immeuble, je préfère utiliser le mot immeuble, et la pertinence et la continuation d'un certain nombre de règles que l'on a mis. Parce qu'au bout de 10-15 ans, il y a des gens qui peuvent déraper quand on n'est pas là derrière eux, et de faire des financements sur 30 à 40 ans pour l'acquisition du bâti. Et ensuite, à partir de ce moment-là, la copropriété, si elle a le désir, ça c'est très foncé, de rester propriétaire, c'est ce que nous observons, hein, eh bien, elle peut recharger, elle peut réinvestir collectivement pour acheter la part du foncier qui reste acquérir. C'est une manière détournée de faire finalement sur 60-70 ans. La deuxième chose, c'est que le loyer qui aura été payé par les locataires, là on a copié un peu le système suisse, les Suisses demandent des fonds propres, c'est-à-dire quelqu'un qui adhère à une coopérative va mettre des fonds propres, il va acheter des parts sociales, en fonction de l'importance du logement qu'il prend. Si je prends la studio, je vais mettre 5 000 euros, je vais bloquer. Si je veux prendre un D5, je vais prendre peut-être 12 000 euros. D'accord ? Cet argent-là a d'ailleurs vocation à être remboursé avec une actualisation de l'inflation. Hein. Donc ce n'est pas une perte, mais c'est de telle manière que la coopérative, quand, en tant qu'unité financière, va présenter son bilan au banquier, elle va avoir des fonds propres. Des fonds propres d'ailleurs intéressants parce qu'ils sont réunis par des champs en fonction de leur... de ce qu'ils prennent dans la coopérative. Et l'idée qu'on a, contrairement à nos amis suisses, alors c'est là où on diverge avec Rossio de Genève, c'est que nous pensons qu'en France, c'est très difficile de ne pas aller vers le paiement d'une soute à quelqu'un qui a été 15-20% 20 années locataire, quitte à lui expliquer par un travail pédagogique, un peu comme il y a une explication maintenant qui est obligatoire sur les salaires, part sociale, charge salariale, charge patronale, etc. Ben, à la limite, on peut demain indiquer que dans le loyer de la coopérative, on indique qu'il y a, vous payez, je caricature, à 1 000 euros, il y a 5 euros pour les frais de gestion, il y a 9 euros pour la provision de grosses réparations parce que dans 20 ans, il va falloir changer l'étanchéité, la toiture et je ne sais quoi. Il y a tant pour les intérêts d'emprunt que la coopérative, on a voté ensemble. Et puis, il y a constitution du capital. Donc ça, ce genre-là pourrait être fait. Et on pourrait tout à fait incrémenter une part acquisitive, c'est-à-dire que là-dessus, compte tenu de ce qui a été dit, ben, sur les, vous avez payé 600 euros chaque année, chaque mois, pardon, et bien sur 600 euros, vous avez droit à 70% ou 60%, etc. Donc on travaille sur ces modèles-là, nous, avec les éléments. Bien entendu, toute la question, c'est de trouver... soit un système financier qui puisse amener les fonds, les rémunérer modestement, c'est-à-dire, et la Caisse des dépôts qu'on a approchée sont assez dures, sont plus dures avec nous qu'avec avec 4-5% de rémunération à la Caisse des dépôts. Hein, alors que nous, on est plutôt à rechercher des fonds qui se bloquent sur des longs termes et qui sont livrés à plus à 1000%. Dans ce système-là, on n'est pas encore dans l'esprit de ce que défend Habicop au niveau de la chose. On est simplement dans un étalement beaucoup plus lent de l'accession à la propriété en jouant sur la durée et surtout, ça c'est ce que j'ai retenu des deux, trois visites que j'ai fait à Genève, c'est que c'est l'ensemble, l'unité d'immeuble qui fait l'objet d'une négociation avec les banquiers et non pas les gens qui vont être dedans, qu'ils soient en statut précaire, CDD, et qui vont jouir après du droit d'avoir un logement et s'ils en parlent, on récupérer quelque chose de bien. Hein, puisque, voilà. Nous, c'est cette piste-là qu'on travaille. Hein, c'est pas la même, enfin, elle est comme un bouquet d'histoire. Hein, il y a plusieurs branches possibles.
Mais je voudrais dire, il y a un modèle qui est assez intéressant, qui existe à Singapour, l'ensemble de la population est logée en HLM d'État. Et en fait, ils peuvent avoir accès à leur appartement en utilisant une partie de ce qu'ils cotisent à la sécurité sociale. C'est un système de gestion de fonds. L'État de Singapour, en permettant qu'une partie de ce qu'ils cotisent en sécurité sociale sur le long terme, ils puissent le mobiliser pour acheter leur appartement, fait que pratiquement 80% de la population a accès à la propriété. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.